Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence comme une affaire criminelle et se termine comme une affaire médicale. C'est l'affaire Romain Dupuis, un jeune schizophrène de 21 ans qui, en 2004, décapite une infirmière de l'hôpital psychiatrique de Pau et égorge une aide-soignante. Avec derrière cette question, comment faire admettre aux deux victimes, aux deux familles de victimes, qu'il ne peut pas y avoir de procès parce que le tueur, Romain Dupuis, est un malade mental. Et puis dans cette affaire, il y a aussi une histoire dans l'histoire. L'histoire d'une maman qui savait que son fils était dangereux, qui a tiré toutes les sonnettes d'alarme pour le faire interner et qu'on n'a pas entendu. Cette maman, je l'avais interviewée il y a quelques années pour l'émission Faites Entrer l'Accusé et j'ai choisi de vous faire entendre aujourd'hui deux extraits de cette interview absolument bouleversante. Voici cette histoire, je l'ai écrite avec Emmanuel Denise, réalisation Céline Lebras.
Allô, police secours ? Oui, bonjour, le centre hospitalier des Pyrénées à l'appareil, l'hôpital psychiatrique. Dites, on a un carreau cassé dans un des pavillons. Une effraction, manifestement, on n'est pas rentré, hein. Vous pouvez venir ?
Ok, on arrive, je vous envoie un équipage.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Le commissariat de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, reçoit ce coup de fil de l'hôpital psychiatrique le 18 décembre 2004, un peu avant 7h du matin. Le premier jour des vacances de Noël. C'est le début de notre histoire. Car derrière ce carreau cassé vient de se dérouler l'un des meurtres les plus barbares, les plus terrifiants qu'il m'ait été donné de vous raconter. Terrifiant, le décor l'est aussi. Le centre hospitalier des Pyrénées de Pau est un hôpital psychiatrique qui date de 1865. Et il est presque dans son jus du 19e siècle. Presque. 42 bâtiments délabrés, répartis sur 42 hectares. Un petit quartier. Et avec ça, ouvert aux quatre vents, comme dit le directeur. Mais enfin, ça n'est pas une prison. J'ajoute que certains bâtiments, abandonnés, sont squattés par des SDF. Voilà pour le décor. Alors ce carreau cassé, deux policiers arrivent sur place à moto quelques minutes après le coup de fil. En fait de carreau cassé, c'est un vasistas qui est cassé. Et c'est vrai que ça ressemble à une effraction, d'autant que quand on baisse la tête, sous la fenêtre, il y a des traces de sang. Oh ben dis donc, à tous les coups c'est le voleur qui s'est coupé ça. Et il n'y a qu'à suivre les gouttes. Et les voilà partis, le nez sur le carrelage, qui traverse d'abord un vestiaire, puis qui remonte un long couloir, toujours en suivant les gouttes de sang, et qui arrive dans un petit salon. Il y a un sapin de Noël, et juste au pied, une flaque de sang, avec une forme au milieu. Les deux flics ne réalisent pas tout de suite, et pour cause.
Wata ! Mais putain, elle est où la tête ?
C'est un corps de femme, mais sans tête. Une infirmière, elle a l'uniforme. Et la tête alors ? Eh bien la tête, elle est posée comme un trophée sur la petite télévision du salon. C'est une horreur, c'est une barbarie. Et là, les policiers voient une porte ouverte. Derrière, la lumière est allumée, c'est le bureau des infirmières. Le sous-brigadier pousse la porte du bout du pied. Et là, c'est un film d'horreur. Au sol, face contre terre, il y a une autre femme. Elle a sa tête, mais elle a été égorgée et massacrée à coups de couteau. Une boucherie. Le sous-brigadier attrape tout de suite sa radio.
Allô, centrale. Il me faut du renfort. Un corps décapité, une personne égorgée.
Le problème, c'est que dehors, le message est passé en grand sur la radio de la moto. Alors les infirmiers ont tout entendu. Et quand les policiers ressortent, blême, ils trouvent toute l'équipe de jour face à eux.
Qui c'est ? Qui a été décapité ? C'est un patient, c'est qui ?
Les policiers baissent le regard.
Non, c'est un de vos collègues.
La première, celle qui a été décapitée, s'appelait Chantal Klimaszewski. Elle avait 48 ans et deux enfants. Elle était infirmière et travaillait dans ce pavillon depuis 6 ans. Le deuxième corps est celui de Lucette Garriot, 40 ans. Maman d'un petit garçon de 6 ans, elle était aide-soignante depuis 8 mois dans ce pavillon. Mais qui a pu commettre une telle horreur? Et pourquoi? C'est la police judiciaire de Bordeaux qui est appelée pour diriger l'enquête. Elle passe la scène de crime au peigne fin. Et le tueur est imprudent, il a laissé tout un tas d'indices. 3 empreintes digitales bien distinctes sur le vasistas brisé, une trace de chaussure très nette de marque Reebok taille 43, et un truc bizarre aussi. On dirait que sur son passage partout, il a semé des vis cruciformes. Mais le plus intéressant bien sûr, ce sont les taches de sang, le chapelet de gouttes de sang qui a conduit les policiers jusqu'au cadavre. Il s'est blessé, manifestement, en cassant la vitre. Et donc, on a son ADN.
Les enquêteurs pensent que la piste est sérieuse car les traces de sang ont été retrouvées dans plusieurs endroits de la scène du crime, ce qui laisse peu de chance pour qu'ils proviennent de quelqu'un d'autre que l'assassin. Les hommes du laboratoire de police scientifique de Toulouse ont donc ce soir le profil génétique du suspect numéro 1.
Et on passe cet ADN au fichier. Ça ne donne rien. Le tueur n'est pas répertorié. Est-ce que ça pourrait être un cambriolage qui a mal tourné? Évidemment que non. D'abord, on n'a rien volé, et puis on ne décapite pas quelqu'un après un cambriolage. Ça ne tient pas debout. Non, la décapitation suggère que c'est un malade mental, un patient de l'hôpital. Est-ce que ça peut être l'un des patients du pavillon? Ça, c'est peu probable. C'est un pavillon de gériatrie, une majorité de malades d'Alzheimer. Ils ont tous plus de 70 ans, on les voit mal passer par le vasistas. Mais bon, dans le doute, on leur fait à tous un test ADN. Négatif. Les policiers font aussi passer des tests ADN aux familles des deux victimes. Sage précaution, au cas où quelqu'un de la famille serait venu régler ses comptes à l'hôpital. Mais là encore, négatif. Au cas où, on vérifie aussi si les deux femmes avaient des amants, des histoires, des embrouilles. Nada. Donc à coup sûr, c'est un fou. Un fou capable de décapiter et d'égorger deux femmes et qui est donc en liberté. Et là, autant vous dire que les employés de l'hôpital sont morts de trouille.
On a toujours la crainte de... Est-ce que cette personne ne va pas revenir? Ce qui vient surtout à l'esprit, c'est... C'est ces visages qu'on ne reverra plus et surtout les horribles conditions dans lesquelles elles ont trouvé la mort. Et vous ne pouvez pas rester indifférent. C'est terrible. C'est... Tout le week-end, j'ai essayé de faire autre chose, de faire de la mécanique. Je n'étais pas concentré. Je travaillais un petit peu et puis mon esprit décrochait et revenait ici.
Le ministre de la Santé, Philippe Touste-Blazy, est obligé de sortir le carnet de chèques, 300 000 euros, pour sécuriser les bâtiments de l'hôpital psychiatrique. Dans les jours qui suivent, 30 anciens patients de l'hôpital sont interrogés. On vérifie leur emploi du temps et on les relâche un par un. Alors début janvier, les policiers sortent la grosse cavalerie. Ils lancent une grande campagne de prélèvement ADN. 1300 tests sont réalisés sur tous ceux qui côtoient de près ou de loin cet hôpital psychiatrique, jusqu'aux pompiers de la caserne voisine qui viennent manger tous les jours à la cantine. Ça ne donne rien. Négatif sur toute la ligne. C'est un banal contrôle d'identité qui va tout débloquer. Le 29 janvier, plus d'un mois après la tuerie, il est 23h, 3 policiers de la BAC patrouillent en voiture banalisée dans le quartier du Hédas, dans le centre-ville de Pau. Et là, ils repèrent un jeune qui est en train de fumer un pétard assis sur un muret, en pleine rue, sans se cacher. Ils s'arrêtent, ils descendent et ils enfilent leur brassard. Bonsoir monsieur. Police nationale, vous pouvez nous présenter une pièce d'identité s'il vous plaît? Vous me contrôlerez pas? Je suis en bas de chez moi. Et là, le type plonge la main dans son manteau, comme pour chercher ses papiers, et il sort un pistolet. Et il vise l'un des policiers, à bout portant, et il l'appuie sur la gâchette. Mais le coup ne part pas. Il essaye encore, rien. Et là, il se met à courir, en tentant de glisser une nouvelle balle dans le chargeur. Mais les policiers lui arrachent son arme, et ils le neutralisent. Il s'appelle Romain Dupuis, il n'a que 21 ans, il le ramène au poste pour l'interroger. Pour l'instant, ils ne l'interrogent que parce qu'il a tenté de leur tirer dessus.
Je me croyais dans un film, comme dans Léon. Je me suis dit, shoot dans le tas. Mais homme fer, on vous a pas agressé ou menacé. Il s'agissait de contrôler votre identité. Vous êtes tous dans le même lot. PD, nazis, policiers. Vous êtes tous ensemble à vouloir m'attaquer.
Le gamin est complètement allumé. Et pour couronner le tout, il porte dans les cheveux une barrette qu'il s'est fabriquée avec la mâchoire d'un animal. Mais qu'est-ce que c'est que ce zigoto ? Il demande alors à un psychiatre de l'examiner.
Il est schizophrène. Et a priori, il est en crise. Il faut l'interner rapidement.
Il n'est pas traité ?
Si, si. Il a fait plusieurs séjours à l'hôpital psychiatrique de Pau. 3 séjours à ma connaissance.
Un ancien patient de l'hôpital psychiatrique en crise. Évidemment, dans leur tête, ça fait tilt. Alors avant de laisser partir Romain Dupuis pour l'hôpital psychiatrique, l'un des policiers, le capitaine Chollet, lui demande
« Tiens, je vois que vous avez des chaussures Reebok aux pieds. Vous faites quelle pointure ? 41 ? Chausse du 41 ? Ah bon ? C'est curieux. Moi, je chausse du 43. Hé, j'ai bien l'impression que vos baskets, là, c'est du 43 aussi. Vous pouvez les enlever, que je regarde ?»
Le gamin retire ses baskets. Et c'est bien du 43. Mais mieux que ça, la semelle correspond parfaitement à la trace de pas retrouvée sur les lieux du crime. Le policier regarde sa main gauche, il est blessé.
Et le meurtre de l'hôpital psychiatrique, Romain ? Tu en as entendu parler ? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Moi ? Moi, j'ai rien à voir avec cette histoire !
Les policiers lui font alors un prélèvement ADN et ils le laissent partir pour l'unité pour malades difficiles de l'hôpital psychiatrique de Cadillac, près de Bordeaux. Et en attendant les résultats, ils vont perquisitionner chez lui. Sa chambre, oh là là, sa chambre. Sa chambre fait peur, très peur. Elle est tapissée de posters, de photos de femmes découpées dans les magazines. Et sur chaque image, il a dessiné des sabres, des couteaux, et autour de leur cou, des taches de sang. Et chaque poster est attaché au mur avec des petites vis cruciformes du même format que celles qu'on a retrouvées sur la scène de crime. Et en fouillant encore, il trouve un sabre japonais, des magazines sur les samouraïs et une mallette de couteaux de cuisine. Vide. C'est alors que tombe le résultat de la comparaison ADN. C'est lui. C'est lui. C'est ce gamin de 21 ans qui a décapité l'infirmière et égorgé l'aide-soignante de l'hôpital. Alors le 31 janvier, Romain Dupuis est ramené à Pau et placé en garde à vue. Au début, il nie.
C'est pas moi. Je comprends pas pourquoi mon ADN se trouve là-bas.
Le capitaine Chollet qui l'interroge change alors de stratégie. Il lui parle d'autre chose. De sa passion pour les couteaux, pour les samouraïs. Et c'est payant, parce qu'il passe à table.
Bon, je vais vous expliquer pourquoi je les ai tués.
Et là, avec un calme stupéfiant, sans honte, sans fierté, sans exaltation, sans aucune agressivité, il raconte tout en détail. Il explique que 2 jours avant la tuerie, il est allé acheter du cannabis dans une cité de Pau. Et qu'il s'est fait agresser par des dealers. Ça l'a blessé, alors il voulait se venger. Pendant 2 jours, il a ruminé sa vengeance dans sa chambre. Et le 17 décembre, vers 23h, il est sorti avec un couteau de cuisine pour se venger. Il est allé à la cité. Il n'a pas trouvé les dealers. Et là, il dit qu'il a été attiré comme un aimant dans la direction de l'hôpital psychiatrique.
Je connaissais. J'y suis allé plusieurs fois. L'endroit est aux mains des nazis et des extraterrestres.
Dans le parc, il a fumé un joint. Il a remarqué que l'un des pavillons était allumé. Il a voulu entrer, les portes étaient fermées. Alors avec son couteau, il a voulu dévisser un vasistas et il s'est cassé. Il est entré, il a passé le vestiaire, il a avancé dans le couloir, et là, il est tombé sur Chantal Klimaszewski. Et il l'a roué de coups de couteau. Après, il est allé dans le bureau, il a égorgé Lucette Gariot. Et puis, il est revenu près du premier corps, et il lui a tranché la tête avant de la déposer sur le téléviseur. Après quoi, il est rentré chez lui, il s'est lavé, il s'est couché, et il s'est endormi. Voilà. Romain Dupuis répète tout ça au juge d'instruction, qui le met en examen pour meurtre sur professionnel de santé, tout en se disant que c'est sans avenir. C'est un malade. Il va probablement être impossible de le juger. Les premiers signes de la maladie de Romain apparaissent quand il a 8-9 ans, dans ses dessins. Il dessine des créatures étranges, des têtes découpées déjà, et il met du rouge partout pour représenter du sang. Et puis la nuit, il entend des voix. Il voit des créatures devant son armoire. Elles lui veulent du mal. À l'adolescence, Romain ne veut plus sortir de chez lui. Il a peur des zombies qui l'attendent dehors. Alors il reste enfermé. Ses parents voudraient qu'il voie un psychiatre, mais lui, il ne voit pas de raison. Les malades psychiatriques ne savent jamais qu'ils sont malades. À 17 ans, Romain est finalement diagnostiqué schizophrène. Il est hospitalisé de temps en temps, 3 semaines, et puis il ressort. Et en général, il arrête son traitement et il replonge. Durant les longues années qui ont précédé la tuerie, sa mère a tenté de le faire interner 100 fois. Elle s'est heurtée à un mur.
Bien sûr qu'on pouvait l'éviter. Il suffisait de pas grand-chose. Romain est très réceptif au traitement qu'il reçoit. Et il est très réceptif. J'ai des scènes encore en mémoire. Je me rends au CHP de Pau avec 1,5 litre d'eau, un gros bouquin, et je leur dis très calmement, voilà, je ne bougerai pas d'ici tant que vous ne me suivrez pas pour faire interner Romain, parce que nous allons le perdre. J'ai ajouté, s'il lui arrive quelque chose à lui ou une autre personne, je vous en tiendrai responsable.
Alors maintenant, dans cette affaire, il revient à des experts psychiatres de dire si oui ou non Romain Dupuis était en état de démence au moment où il a tué. Si son discernement était aboli, si la réponse est oui, alors en vertu de l'article 122.1 du Code pénal, il ne pourra pas être jugé. Le juge d'instruction missionne un premier expert, le docteur Jean-Claude Chanceau, qui voit Romain à 3 reprises. Son rapport fait l'effet d'une bombe. Oui, il a d'importants troubles de la personnalité. Mais c'est à cause de sa consommation excessive de cannabis. C'est le cannabis qui provoque ses bouffées délirantes. Donc au moment du crime, son discernement était altéré, mais il n'était pas aboli. Donc, il est responsable de ses actes. Donc, il va pouvoir y avoir un procès. Le juge est un peu surpris, puisque Romain était diagnostiqué schizophrène. Alors il commande une deuxième expertise, qui est réalisée celle-là par un collège de 3 psychiatres, les docteurs Archambault, Coutenceau et Dubec. Et eux, ils n'ont aucun doute. Romain Dupuis est atteint d'une schizophrénie paranoïde, qui se manifeste notamment par un délire de persécution. Il n'est pas responsable de ses actes. Un partout, donc, la balle au centre. Alors le juge missionne un autre psychiatre, et un autre psychiatre, et encore un autre psychiatre. Et à la fin, 8 psychiatres considèrent qu'il est schizophrène, et un seul qu'il ne l'est pas. Et sur cette base, à 1 contre 8, on est parti pour un non-lieu psychiatrique. Il ne devrait pas y avoir de procès. Mais maintenant, mettez-vous à la place des maris des deux victimes, des enfants, des parents. S'il n'y a pas de procès, ça veut dire qu'on s'arrête là. Circuler, il n'y a rien à voir. Les familles sont ulcérées. Alors elles organisent un rassemblement qui réunit 500 personnes pour exiger un procès d'assises. Là-dessus, la politique s'en mêle. Nicolas Sarkozy vient d'être élu président, il vient dans la région et il prend position.
Que veulent ces familles ? Qu'il y ait un procès. Que veulent ces familles ? Pouvoir faire le deuil. Et que veulent ces familles ? Qu'on leur explique pas qu'il y a un non-lieu. Parce que quand vous avez votre femme ou un membre de votre famille qui est assassiné, qui est égorgé ou qui est décapité, et que la justice vous explique qu'il y a un non-lieu, c'est-à-dire que l'événement n'a pas eu lieu.
Mais peu importe ce qu'en pense le président de la République, la justice en France est indépendante. Et le 28 août 2007, en application de l'article 122.1 du Code pénal, le juge d'instruction prononce un non-lieu psychiatrique. Il n'y aura pas de procès d'assises. Mais il y aura quand même une sorte de procès. Le juge accepte l'idée que Romain Dupuis était en état de démence au moment des faits. Et il applique le code pénal, il applique la loi. Mais les familles des victimes, elles ne l'acceptent pas. Elles veulent un procès et donc elles font appel de la décision du juge. Et l'appel se déroule au cours d'une audience publique le 7 novembre 2007 au palais de justice de Pau. Et ce jour-là, la salle est pleine à craquer, au point qu'on est obligé d'ouvrir une salle annexe avec une retransmission vidéo. Et bien entendu, les familles des deux victimes sont au premier rang.
Il me tardait que ce moment arrive parce qu'il me tardait de rencontrer Romain Dupuis et j'espère qu'il sera là et qu'on ne l'aura pas assommé de médicaments, qu'il sera lucide et qu'on pourra entendre sa voix, qu'on pourra l'entendre s'exprimer.
Et le voilà qui entre dans la salle accompagné d'infirmiers. C'est un jeune homme aux cheveux longs, bruns, noués en arrière. On lui demande de raconter. Il raconte. D'une voix monocorde, un peu nasillarde, il raconte. Et les familles trouvent qu'il n'a pas l'air complètement fou.
Il a des regards qui expriment quelque chose. Je pense que quelqu'un de fou n'a pas ces regards-là. Il n'est pas atteint comme il y en a qui prétendent, je ne pense pas. Peut-être pas bien, mais fou complètement, non. Il regarde bien les gens quand on lui parle. Il écoute bien ce qu'on lui dit. Il répond très bien. Pour moi, il ressemble à un jeune qui a un peu abusé de toute chose, mais qui sait ce qu'il a fait, ça c'est sûr.
Et pourtant, dans son récit, de temps en temps, il délire. Pourquoi est-ce qu'il avait des vis partout dans les poches ? Parce qu'il avait peur d'être attaqué par des chiens. Pourquoi est-ce qu'il a décapité Chantal Klimaszewski ? Parce qu'il a cru qu'elle était ressuscitée, il a voulu la tuer pour de bon. L'audience dure 3 jours. Et à la fin, sans surprise, les 3 juges confirment que Romain Dupuis n'est pas responsable de ses actes. Ils confirment l'ordonnance de non-lieu psychiatrique. Et maintenant, c'est définitif, il n'y aura pas de procès dans cette affaire. Et Romain Dupuis retourne dans une unité pour malades difficiles à Cadillac, en Gironde.
Marie-Claire Dupuis, comment va Romain aujourd'hui ?
Il réagit très bien au traitement. Et c'est un schizophrène qui, s'il est traité, parce qu'il faudra qu'il le soit.
À vie ?
Toute sa vie, il faudra qu'il soit surveillé.
Et s'il est traité, alors ?
Mais s'il est traité, il se reconstruit.
Vous pensez-vous aujourd'hui qu'on pourrait laisser sortir Romain sans prendre de risque ?
Oui, avec un infirmier. Et chaque étape doit être contrôlée, surveillée.
Accompagnée.
Accompagnée.
Et est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer des gens qui ont perdu des proches, qui sont morts sous les coups de votre fils ?
Ce n'est pas mon fils qui a agi ce jour-là.
C'est son autre, lui.
C'est un fou.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.